Et oui, c'est déjà l'épisode 2 du Micha Live qui est en ligne. Alors, Micha me fait bosser comme une esclave, hein, sans déconner, hein, parce qu'après la journée de travail, je dois encore me farcir les intros et les fins du podcast. Mais bon, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. À Micha aussi, hein, j'imagine. On continue de vous gâter en interview, puisque cette fois-ci, on démarre avec Charles Chevalier. Alors, effectivement, on avait démarré le premier épisode avec Bruno. On s'est dit pourquoi pas démarrer avec Charles Chevalier ce deuxième épisode. Il sera suivi par Juliette de Bombix, rattrapée de peu par les Ludonautes. Alors, j'ai l'impression de donner les résultats d'une course. Enfin, bref, Purple Brain arrive avant-dernier avec Benoît Forget aux commandes. Mais on garde le meilleur pour la fin. François Doucet nous parlera de Space Cowboys à la fin de ce podcast. Je vous laisse entre de bonnes mains. À tout à l'heure. C'est parti.
Salut Charles.
Bonjour.
Bon, dans un contexte un peu particulier avec ce off du vendredi soir un peu remasterisé par le jeu de rôle.
Ouais, disons qu'on est désagréablement surpris. Hier, on avait plein de place, on a pu discuter, on a pu faire jouer. Et bon, ce soir, c'est un peu la cata, quoi. Voilà.
Au-delà de ça, quelle est ton actualité ici sur Cannes?
Sur Cannes, l'actualité, c'est Abyss qui est nommé parmi les 12 jeux. Donc étant donné la liste, on est quand même très fiers de faire partie de ces 12 jeux. Je pense qu'il faut reprendre l'expression d'un des deux présentateurs hier. Je pense qu'il y a 12 gagnants déjà à la base. Après, il y a eu 4 jeux primés. Sur les 2500 jeux de l'année, c'est encore plus exceptionnel. Mais bon, faire partie des 12, c'est quand même déjà très bien.
Et du coup, de nous présenter des sorties, des nouveautés, des futurs projets?
Alors, en fait, on est venu présenter donc, déjà l'extension d'Abyss. Donc ça veut dire que l'extension tourne sur le stand Bombix. On n'est pas peu fiers avec Bruno du travail que l'on a fait, dans le sens où le jeu est réellement changé par rapport au gameplay initial. Donc c'est vrai que c'est plus le même jeu qu'on propose. Et donc on offre une autre façon de jouer à Abyss, sans changer le matériel, sans changer les règles de manière prépondérante. Après, j'ai eu la surprise agréable de voir qu'un de mes jeux pour lesquels j'avais travaillé pour Wonderkid, donc Partners, est en train de sortir, donc Yams Pirate. Et puis, après, il y a Wakanda donc, qui est toujours présenté chez Blue Orange.
Qui est sorti à Essen.
Voilà, qui est sorti à Essen, donc qui est quand même encore assez récent. Et après, il y a d'autres sorties chez Blue Orange, Wallix qui va arriver. On est venu, conclure certains jeux avec des éditeurs, mais ça c'est trop tôt pour en parler. Voilà, il y a la petite sœur d'Abyss, j'ai envie de dire, avec Bruno, toujours Bruno Catala. Il y a un autre projet avec Bruno Faiuti, un autre avec Frédéric Meyerson. Enfin bon, donc voilà.
Beaucoup de projets à présenter aux éditeurs et qui se retrouvent un peu contrariés ce soir par l'organisation.
Oui, on traverse la France pour venir présenter des jeux et justement enchaîner les rendez-vous parce que tout le monde est au même endroit et on se rend compte que l'organisation fait que. C'est impossible, c'est pas grave, il faudra prendre d'autres dispositions ailleurs sans doute pour les prochaines années parce que c'est de pire en pire.
On va aller boire une bière et garder le sourire.
Oui, ça c'est déjà fait.
Merci beaucoup Charles.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci.
Bonjour Juliette, donc rendez-vous pour Bombix et le blog Geeklette. Est-ce que tu peux nous présenter les futurs et le présent de Bombix?
Oui, alors donc l'année 2015 a démarré depuis un mois. Donc d'abord on a travaillé là pendant à partir à peu près de la rentrée en septembre sur l'artbook d'Abyss, donc qui est sorti à Cannes aujourd'hui. Voilà, donc c'est un livre qui montre l'univers d'Abyss. On a voulu approfondir le thème. Donc faire plaisir aussi aux fans d'Abyss avec les illustrations de Xavier Collette, où là donc on a 120 pages qui parlent, enfin qui montrent toutes les illustrations du jeu. Ensuite on a une partie sur les auteurs, la création du jeu, dans les coulisses en fait du jeu. Donc c'est Charles et Bruno qui ont parlé de leur jeu, et ensuite une partie goodies avec le buste, un collier, enfin tout ce qui a été créé autour de l'univers d'Abyss.
Et je rebondis là sur le collier qui est fait par la femme de Xavier Collette. Oui. Et il me semble qu'elle a écrit des nouvelles aussi pour le.
Oui, ouais, ouais. Elle fait des bijoux, mais aussi elle est auteure. Voilà. Donc on a sollicité en fait des auteurs de science-fiction. Et aussi il y avait des auteurs volontaires comme Rosen et Lionel Davoust. Enfin, on a fait appel à eux aussi. Et il y a eu Mathieu Gabory et David Calvo, et aussi Thomas Hervé qui ont écrit des nouvelles. Donc David Calvo et Mathieu Gabory, c'était une belle surprise qu'ils acceptent ce projet-là, parce que c'est quand même des auteurs reconnus dans le domaine de la science-fiction.
Et donc ça, c'est vraiment pour élargir l'univers d'Abyss.
Ouais, en fait, on a voulu qu'ils créent leur histoire autour d'une illustration, parce que c'est vrai que l'illustration, elle est assez profonde, et on voulait vraiment qu'il y ait une histoire autour de ça, au-delà du jeu. Et donc voilà,
du coup, il y a une histoire par seigneur ?
Non, en fait, c'est les écrivains qui ont choisi une illustration parmi les 70, parmi toutes. Et ensuite, ils ont décidé d'écrire dessus. Donc, il y a un auteur qui a fait une nouvelle. Il y a Thomas Hervé qui en a fait 9. Après, c'était vraiment à la volonté des écrivains. Ils étaient très libres.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, j'ai pu un peu le feuilleter et j'ai deux questions. Le buste, est-ce que c'était juste un one-shot pour vous faire plaisir ou... Parce qu'au départ, il devait être un peu commercialisé comme la figurine de Takenoko. Donc là, est-ce que vous avez décidé si le buste d'Abyss serait commercialisé ou c'était juste un objet unique pour vous?
Ouais. En fait, Cyril Rockland, il me semble que c'est un ami de Xavier Collette. Et qui a beaucoup aimé les illustrations du jeu. Et en fait, on a vu une photo sur Facebook d'un buste, du buste. Et c'était vraiment une volonté de sa part. Nous, on ne lui a rien demandé. On s'est dit, oh tiens, mais c'est super sympa. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas les faire pour chaque guilde, donc pour les 5 couvertures, parce qu'il y en a 6 en vrai. Et puis là, bon, c'est encore en stand-by, on ne sait pas trop. On attend de voir déjà avec l'artbook l'accueil que leur réservent les Français et les Américains, du coup. Parce que...
Et à la dernière page de l'artbook, on voit 2 illustrations de l'extension.
Ouais.
Du coup, ça donne vraiment envie. Et est-ce que tu peux nous présenter du coup l'extension qui va arriver cet été?
Oui, l'extension, en fait, il y a une nouvelle famille, c'est les contrebandiers. Qui vont amener des perles noires. Et ensuite, il y a aussi d'autres cartes, d'autres lieux.
Les épaves qui permettent un stop encore un peu nouveau sur les lieux.
Ouais.
Les sentinelles qui permettent un peu plus de programmation. Donc au final, pas mal de petites nouveautés, mais qui s'inscrivent vraiment dans la fluidité du jeu. Et pour l'avoir testé, c'est vrai qu'elle renouvelle beaucoup, beaucoup l'expérience de jeu tout en gardant une fluidité de jeu.
Mm-hmm. Donc, les auteurs sont là aussi pour l'expliquer tous les jours pendant le Cannes. Ouais.
Et du coup, là, elle est toujours prévue pour la Gen Con?
Alors, on ne sait pas. On espère, mais il n'y a pas de date encore de fixer.
D'accord.
Ouais. C'est au mieux Gen Con, mais sinon, c'est plutôt la rentrée.
La rentrée,
ouais. La rentrée, ouais.
D'accord.
Ouais. Voilà, au niveau des nouveautés, donc l'extension Abyss. On a l'extension aussi Takenoko. Voilà, on consolide nos jeux, les jeux qui marchent et qui ont du succès auprès du public. Donc Takenoko Chibi, elle va s'appeler. En fait, c'est l'empereur de Chine qui offre un autre panda aux jardiniers. Et donc, c'est un panda femelle. Et donc du coup ça va faire aussi des bébés pandas, donc il va falloir gérer tout ça avec des nouveaux objectifs, des nouvelles sections de bambou, enfin d'autres sections de bambou.
Et quand vous dites jeu à succès, c'est combien de boîtes vendues par exemple pour Abyss? J'avoue, ça m'intéresse.
Je sais pas exactement les chiffres, c'est Erwan qui gère ça, mais il me semble que pour Abyss on en a eu 20 000.
Oui.
C'était le premier tirage, non?
Ouais.
Donc avec les 6 couvertures, c'est ça?
Ouais, avec les 5 couvertures. Et du coup, là, on en a retiré. Voilà. Après,
par contre, vous retirez que l'illustration principale,
oui,
je crois.
Oui, voilà. D'accord. Donc maintenant, c'est collector.
D'accord.
Les autres couvertures.
Là, du coup, pour revenir à l'extension Takenoko, là, vous avez une date prévue ou...
Oui, ça va être pour juin.
D'accord, donc assez bientôt.
Bientôt, peu, ouais. bientôt. D'accord. Bientôt.
Et ce sera sous quel format?
Ça sera la moitié de la boîte de Takenoko.
D'accord. Ouais. Comme pour Abyss, l'extension de l'Abyss sera la moitié.
Voilà.
De la boîte.
Ouais.
Et j'ai vu des questions traîner, peut-être que tu as la réponse. Est-ce que l'extension Takenoko sera en mode XL pour les joueurs qui possèdent Takenoko XL?
Ah ouais, ça on ne sait pas encore.
Vous ne savez pas encore?
Non, on en discute, ouais.
D'accord. Toujours sur les nouveautés, vous avez les bâtisseurs.
Les bâtisseurs antiquités, ouais, qui sortent donc aujourd'hui pour Cannes. Donc c'est un nouvel opus des bâtisseurs dans une nouvelle époque avec des règles supplémentaires. Avec donc une ligne où on propose pour une action de choisir soit des outils, des esclaves, des universités et puis des prêts. On peut faire des prêts à la banque et donc ça nous apporte quand même beaucoup plus d'argent au départ. Mais par contre, par rapport au bâtisseur Moyen-Âge, il y a beaucoup plus de gestion justement d'ouvriers et d'argent. Mmh. On peut vite se retrouver à sec.
Et la gestion de l'argent est plus difficile.
Ouais.
Du coup, c'est plus compliqué alors.
C'est un peu plus compliqué.
D'accord.
Ouais.
C'est ce qu'attendent les gamers.
Oui.
Donc c'est bien.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
Ça, c'est sûr qu'il y avait quelques reproches sur la facilité du jeu. Enfin, pas la facilité, je m'entends, mais
l'accessibilité.
Voilà, l'accessibilité. Mmh. Et du coup, je pense que ça plaira aux gamers, cette nouvelle version. Mmh. Ouais.
Et donc, on va bien rappeler que voir. C'est en stand-alone, que c'est pas une
oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment en stand-alone. Voilà.
Et c'est, ouais, si on a joué au premier, le deuxième, on comprend en 3 minutes.
Ah oui, oui, bien sûr. Il y a la ligne supplémentaire en plus. Il y a aussi les petites pièces qu'on a imprimées spécialement pour Antiquité. Mmh.
Il me semble qu'on peut mettre en avant le travail d'illustration ou là,
oui,
chaque illustration
là,
est unique.
Voilà, ouais, ouais, ouais. Chaque ouvrier a été travaillé vraiment différemment. Il y a des Babyloniens, il y a des Grecs qui sont tous très différents. Il y a un gros travail là-dessus. Mais il y a aussi moins d'ouvriers parce que du coup, il y a plus d'interactions entre la nouvelle ligne qui propose plus de choses, de possibilités.
Et ça, c'est donc pour vos nouveautés actuelles. Et est-ce que vous avez déjà eu un aperçu pour les prochains mois, au-delà des extensions d'Abyss ou de Takenoko qu'on a déjà pu parler? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours?
Oui, on en a plusieurs. On a notamment Doodle City, qu'on a découvert. Et on a rencontré les auteurs à Essen 2014, là, Essen
dernier.
C'est
le jeu 2D où il faut construire une ville, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui. Ouais, ouais, avec un petit bloc-notes, un crayon, un lancer de dés. Voilà, ça se joue de 1 à 6 joueurs. C'est assez accessible. Et
donc là, c'est quoi? C'est juste un travail de traduction? Vous allez refaire tout
là,
le
là, c'est un travail de, et... ouais, de graphisme. Donc mm-hmm. Là, on est en train de chercher un illustrateur. Et puis ensuite, on se demande aussi si on utilise... on garde le bloc papier ou on utilise un tableau Velleda ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est encore en discussion.
C'est assez actuel d'utiliser un bloc Velleda.
Oui.
Et du coup, le thème resterait à peu près le même?
Ah
ça,
oui, oui.
C'est,
ouais, ouais, totalement. Mm-hmm. Même le nom, on est plutôt... on trouve que ça, c'est pas mal. Voilà, il y a aussi, des jeux de Bruno Catala, donc Molière, mm-hmm. qu'on va éditer aussi cette année. Et puis Streamers, c'est Bruno et Florian qui l'ont créé. Où là, c'est un jeu un peu plus, familial plus.
Dans la gamme d'Abyss, c'est ça?
Dans la gamme d'Abyss, ouais.
Vu le nom, je suppose que ça doit être un peu une ambiance steampunk.
Ou... Oui, voilà, ouais.
D'accord. Et donc ça, c'est en cours de développement et ça,
c'est en cours.
C'est pour les projets de cette année, si tout va bien.
Donc. Ouais, voilà. La priorité, ça va être Doodle City. Et, enfin, d'abord les deux extensions et tout ça, mais bon, là, on a déjà à peu près les dates. Et ensuite, Doodle City, et viendront les autres après. Ouais.
Si tu as quelque chose d'autre à rajouter, n'hésite pas. Bah, merci beaucoup.
Merci.
Super.
À vous.
Merci.
Bonjour à tous, nous sommes avec les Ludonautes et un de leurs auteurs fétiches. Donc tout d'abord, félicitations pour l'Asdar.
Bah, merci.
Je suppose que ça fait plaisir et que c'est la reconnaissance d'un gros travail.
Exactement, c'est vraiment voilà, un grand merci à tout le monde parce que ça nous, conforte dans le choix qu'on a fait depuis le début. Et puis voilà, ça nous donne l'envie de continuer et plein d'énergie pour la suite.
Et en parlant de continuer, du coup...
Ah bah là, avec Colt Express, voilà, l'accueil qu'il a reçu auprès du public, bah ça nous donne envie d'en donner plus. Quand on a fait le jeu, on a évidemment laissé de côté pas mal de choses. Donc Christophe a plein d'idées à rajouter. C'est un thème qui permet aussi de rajouter plein de choses. Donc on est évidemment en train de préparer une petite extension qu'on va sans doute sortir à SM au mois d'octobre, avec des chevaux, une diligence, un wagon prison, un rôle de marshal qu'on peut jouer, des fioles de whisky, enfin voilà, des prisonniers, des otages, pas mal de nouveautés qui permettront aux gens qui connaissent déjà un peu le jeu de s'amuser encore plus.
Et donc c'est différents modules qu'on pourra utiliser un peu à sa sauce, en fonction de nos affinités les modules, pas tout mettre.
On peut mettre l'ensemble des choses qu'on va rajouter. Et on peut ne jouer qu'avec l'intelligence, on peut ne jouer qu'avec le wagon prison. On va avoir aussi des cartes manches différentes, donc on peut les utiliser ou pas. Voilà, c'est quelque chose qui va être très modulaire. Et suivant ce qu'on préfère dans le jeu, on prendra telle ou telle partie de l'extension.
Et d'ailleurs, hier, pendant la cérémonie, vous avez évoqué le fait que c'était le passage en 3D avec le train qui a vraiment poussé le jeu. Et je me suis dit, est-ce que pour l'extension, justement, ce passage en 3D permet pas aussi la création de nouveaux modules? Parce que l'arrivée des chevaux, avec la 3D, c'est du coup, ça permet une imagination plus immersif, et donc la création de nouveaux modules justement rendu grâce à la 3D.
C'est ça. En fait, on a envie pour chaque module qu'on rajoute de rajouter un élément. Donc c'est l'élément 3D qui va même presque porter chaque module et qui va. On a donc la diligence, ça c'est quelque chose que Christophe voulait absolument ajouter parce que ça fait partie de l'univers western. Donc voilà, le module de la diligence, ça vient avec l'élément 3D de la diligence. Le module prison, ça vient avec c'est un nouveau wagon dans lequel on se déplace différemment. Donc ça vient avec la version 3D aussi. Je pense aussi, on fait d'autres extensions plus tard, il y aura de toute façon un élément 3D qui va porter, on va dire, chaque nouveauté.
Et du coup, vous avez déjà une idée de la configuration de la boîte qui contiendra aussi les éléments 3D?
Alors, le problème, c'est que la 3D, ça prend de la place. Donc, on va faire une boîte qui va être aussi haute que la boîte de base, puisqu'il faut que les éléments rentrent dedans. Au niveau format, ça va être la moitié en largeur, même hauteur, mais la moitié en largeur. Et voilà. Le problème, c'est sûr, c'est que le jeu va prendre de la place une fois qu'il va être complété, parce que y a ces modules-là en 3D qui s'ajoutent.
D'accord.
Et du coup, le wagon prison, il va remplacer un wagon existant ou on va compléter le train?
Il s'ajoute. D'accord. Ouais. On prend toujours autant de wagons de base que de joueurs, plus le wagon de prison.
D'accord. Et du coup, après, il va y avoir une forme d'asymétrie avec le shérif dans le jeu.
C'est ça. Le shérif rajoute en fait le fait qu'on peut jouer jusqu'à 7. Au moins, mais il y a un joueur qui va jouer le rôle de shérif, donc on va pouvoir lui tirer dessus, ce que tout le monde nous demandait, donc là maintenant c'est possible, et il va avoir une condition de victoire différente des autres, donc on va avoir une sorte de jeu un peu asymétrique qui va se mettre en place.
Et du coup, sur les autres projets ludonautes qu'on a pu entendre parler, il y a un nouveau Petit Prince associé au film qui sort cette année, c'est ça?
C'est ça, il y a un film donc, de Marcos Band qui sort en mois de juillet, donc nous, ça nous a semblé logique après le premier jeu qu'on a fait sur le livre de continuer l'aventure avec Bruno Antoine sur le film. Donc là, c'est moins Petit Prince, c'est plus l'histoire d'une petite fille, d'un enfant qui part à la découverte de Petit Prince. Donc c'est un jeu complètement différent du premier, c'est plutôt un jeu de parcours. On va voyager dans les étoiles à la découverte de l'univers du Petit Prince. Donc c'est un jeu qui va sortir au mois de juillet, à peu près en même temps que le film, qui s'adresse plutôt à une cible familiale, enfant. Et, qui est relativement léger, un peu plus facile d'accès, je pense, que le jeu avec les tuiles, Fabriquement une planète, parce que là, on a des règles qui sont très simples. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner.
Et du coup, vous êtes en partenariat avec le film pour distribution, marketing
coup, Oui, on a la licence, on travaille avec eux sur leur com, les différents événements qu'ils vont faire. Je sais qu'ils vont être présents au Festival de Cannes, donc on va essayer d'y participer aussi. Au niveau du lancement, il va y avoir de la communication dans les journaux, donc on essaie de croiser les choses, même si on est un peu dans l'urgence parce que ça va très très vite. On est déjà au début mars et on est sur le mois de juillet, donc on est dans un rythme un peu effréné, mais on essaie de s'y faire.
On peut imaginer qu'il y ait une bande annonce au moment du film pour le jeu ou...
Alors ça, on y avait pensé, ça va être compliqué à mettre en place parce que financièrement c'est difficile. En fait, on est sur des économies qui sont complètement différentes, l'économie du cinéma et l'économie du jeu de société. Actuelle, on est pas sur le même nombre de zéros, donc
dans 10 ans peut-être.
Peut-être. Mais il va y avoir des partenariats, notamment sur les grandes enseignes, avec tous les produits dérivés qui vont essayer de faire des corners communs, des choses comme ça.
Et sinon, un autre projet très attendu pour cette année.
Et Discoveries.
Discoveries.
Ça, c'est notre petit chouchou, parce que c'est le type de jeu que nous on préfère faire. Hein. C'est le jeu qui s'adresse aux joueurs un peu aguerris. Donc voilà, c'est Cédric Chaboussi qui s'y colle. Il avait déjà donc signé aussi Clark l'année dernière. Et puis c'est un thème qu'on a beaucoup aimé et qu'on a voulu continuer de présenter parce qu'il y a plein de choses à dire.
Et du coup, vous gardez le même triptyque avec Vincent Dutray pour les illustrations.
C'est ça, la même équipe.
D'accord. Et du coup, je pense que pour présenter le jeu, ce serait agréable.
À toi,
auteur, puisque vous en parlez.
Donc bonjour à tous. Ouais. Donc vous présentez le jeu. Que dire ? Donc déjà, bon, évidemment, c'est dans le même univers. Donc on retrouve un petit peu la patte de Vincent, l'expédition Lewis et Clark. Par contre, ce jeu en fait s'attache montre en fait un aspect qui n'était pas du tout exploité dans le premier opus, à savoir les découvertes réalisées pendant l'expédition. Donc on se concentre vraiment sur ce sujet-là, donc toutes les découvertes, que ce soit de tribus indiennes, d'espèces animales, végétales, et puis l'aspect cartographie. Par contre, donc on reste dans le même univers avec un objectif différent, mais il y a également la mécanique du jeu n'a pas grand chose à voir avec Lewis et Clark. Enfin, il y a quelques similitudes, mais ça, en fait, c'est essentiellement un jeu de dés avec une certaine programmation, une certaine maîtrise. Enfin, l'équipe de Geeklet a pu faire une demi-partie. Donc,
on pourra vous faire un retour.
Voilà, donc
retour.
Il y a quand même une certaine maîtrise, mais tout en ayant aussi une interaction très forte avec les autres joueurs. Ce qui est, je pense, assez particulier, et avec l'utilisation de dés. Donc on a des dés, chaque joueur a ses propres dés, il y a des dés neutres, et les dés vont naviguer entre tous les joueurs, donc il faut récupérer des dés au bon moment pour pouvoir les utiliser, etc. Donc voilà, par contre on est sur un format beaucoup plus court, enfin plus court que Lewis et Clark. On est, quand on joue à 3-4 joueurs, une partie peut se jouer en une heure, quoi, sur une première partie. Après, je pense qu'avec avec l'expérience, on peut aller encore plus vite. Donc voilà, on espère que pour l'instant, tous les feux sont au vert, donc le jeu a l'air de plaire. Donc on espère que ça va continuer.
Et ouais. Du coup, une sortie prévue pour la Gen Con.
Pour la Gen Con, oui.
Aux États-Unis, ce sera la Gen Con, donc fin juillet. Et en France, ça sera fin août. La campagne est prévue le 17 août. Ouais.
D'accord.
Une boîte au format Dixit, c'est-à-dire un peu plus petit que la boîte de Lewis Carré du deuxième tirage. Mais,
bien préciser que c'est un standalone, mais que ça reste en même univers.
Tout à fait. C'est un jeu qui il se joue pas avec Lewis et Clark. Il est plus accessible, mais avec quand même une certaine profondeur.
Et est-ce que c'est le thème qui t'a fait rechercher un nouveau mécanisme, ou c'est plus le mécanisme que t'as réussi à regarder au thème ?
Pour la première fois, en fait, c'est ni le thème ni la mécanique, mais c'est un peu bizarre, mais c'est les stickers. C'est-à-dire que j'avais des plans, plein de planches de stickers à coller sur les ressources, et puis je me suis mis
les
à coller ça.
Les stickers goodies de Lewis
et Clark ? J'ai réfléchi à une mécanique. J'ai toujours aimé les jeux de dés, en fait, et j'ai réfléchi à une mécanique de dés comme ça. Je me suis dit, tiens. J'ai collé des stickers sur les dés, j'ai commencé à regarder, j'ai vu que ça avançait, enfin qu'on pouvait jouer à Lewis et Clark avec des dés comme ça, et puis de fil en aiguille, après je suis arrivé à... Après il y a eu toute la ce qui en a fait quelque chose d'intéressant, en fait, c'est la mettre des dés de couleur, et puis de toute cette gestion des dés qui passent des joueurs aux autres. Donc ça, c'est venu après, mais à la base, c'est pour la première fois, j'ai fait un jeu à partir du matériel, ce que je pensais pas possible. J'ai été un petit peu surpris. Ouais. Je me pensais pas capable, entre guillemets, de partir d'un matériel et d'en faire un jeu.
Et du coup, vu que tu es parti des stickers de Lewis et Clark, je suppose que l'idée de refaire dans le même thème avec les
Lewis et Clark. Oui, la première idée, en fait, c'était sur Lewis et Clark. Et j'ai proposé le jeu, juste parce que on a une très bonne relation avec lui de notes, évidemment. Donc en priorité, dès que je suis sur un bout de projet, une idée, je leur en parle assez vite. Et là, ils ont adhéré tout de suite. Ça m'a surpris moi-même, c'est-à-dire que ça a été tout de suite, ça nous intéresse énormément. ça a été très vite. Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on arrête le thème de Lewis et Clark ou est-ce qu'on continue ? Ça a été vraiment le premier...
C'était presque, ouais, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque à rester sur le même thème ?
Ah, est-ce que les gens prennent ça comme une extension ?
Tout à fait.
Et, en sachant que les extensions se vendent moins qu'un standalone.
Voilà, donc là, il faut vraiment faire passer le message que c'est un jeu différent.
Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Discoveries, et en tout petit, le Journal of Lewis and Clark, pour dire, c'est un jeu différent. Voilà. Et au niveau du graphiquement, on a fait en sorte de faire quelque chose de très différent. Tous les, on voit pas de personnages en gros plan. Tous les éléments graphiques sont en mode paysage. Donc on est plus, ça va être graphiquement. Voilà, on a tout fait pour que ça soit suffisamment différent, que ça informe tout de suite sur le fait que ça n'a pas grand chose à voir, même si ça a des choses à voir avec Lewis et Clark, mais c'est un jeu différent.
D'accord. Là, tout le travail d'illustration de Vincent Dutré, comme tu as pu le dire, c'est tout est ouvert pour que ce soit prêt pour la Gen Con.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, il est dessus.
Il est dessus en ce moment. Ouais. Il a terminé la couverture, il fait le plateau.
Le plateau. Ouais.
C'est quelqu'un qui est super efficace et super carré dans son travail, donc on a complètement confiance qu'il est terminé dans les temps et qu'on soit.
Puis on est, on n'était pas dans l'urgence parce que le jeu est fini depuis mois de décembre. Donc,
niveau réglage.
Ça a été quand même assez vite parce que, par rapport à Lewis et Clark, maintenant on se connaît. Et ça a même été déconcertant d'aller aussi vite.
C'est le talent.
On se connaît aussi.
C'est
facile quand c'est la première fois. Ça nous a surpris nous-mêmes, mais c'est pas désagréable.
Mmh. Et puis là, le fait que Lewis et Clark aient eu un bon accueil en Europe et aux États-Unis, je suppose que ça conforte dans l'idée de.
Oui, c'est risqué, mais on va voir comment c'est perçu. Moi, je crois au ce que vous faites là, c'est-à-dire le bouche à oreille, les blogs, quand le jeu plaît, ça avec l'outil internet, ça, c'est une caisse de résonance énorme. Donc,
clairement, c'est le cas. Enfin, moi, c'était le jeu que je voulais tester à Cannes. Je partais pas sans avoir testé. Enfin, je suis vraiment dans ma période D, puisqu'il y a une clarté, une simplicité beaucoup plus accessible. Et dernièrement, j'ai testé la science de Dice Game, Roll for the Galaxy, et là, Discoveries, ça me conforte dans mes choix de jeux de dés. Hein.
C'est à la mode.
Complètement. C'est à la mode, et puis c'est simple à expliquer, mais c'est pas si facile à jouer.
C'est ça.
Donc je pense que c'est ça qui marche en ce moment. Quoi.
Et après, est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir sur les dés ce sera des dés gravés particuliers ou...
Ça va être des dés en bois, avec les icônes du jeu en fait. Hein.
Alors, on ne collera pas les stickers.
Ils seront gravés.
Ah non, mais il y en a qui le font. Hein.
Pourtant, c'est la base. Pourtant, c'est la base du jeu, les stickers.
Je suis battu. On s'est beaucoup posé la question entre le plastique et le bois, parce que c'est pour les dés, c'était les deux options. On est parti sur le bois. Il y avait le métal, ça ne rentrait pas dans les cases pour le tarif, pour notre budget. On est parti sur le bois par rapport à cet univers-là où on revient en fait à la nature, on a des paysages majoritairement sur les cartes, sur la boîte. Donc voilà, l'aspect bois pour nous, ça allait avec le thème.
Si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à... Moi, je sais que vous avez
remercié.
De rien, mais il y a aussi un autre jeu pro gestion qui va arriver pour un peu plus tard, Mad
Steam. On a Mad Steam qui est dans les cartons depuis presque un an maintenant. On a une petite période de doute là cet été, puis bon là on est revenu avec Greg sur des bonnes bases et on est reparti sur le jeu à fond. Alors comme l'année 2015 est quand même bien occupée, on sera programmé pour 2016. Gros jeu gestion, dans un univers post-apo. Je pense que les gens.
Vous n'êtes pas tourné au Off the Can ou...
Ma Steam hein.
Ouais.
Non, on n'a pas.
Moi, je vais y jouer bientôt.
Enfin, on a des nouvelles depuis super longtemps de ce jeu.
Oui.
Ça fait au moins un ou deux ans qu'il est en développement.
Greg a déjà fait son jeu par lui-même.
Parce qu'il participait au concours des créateurs,
il a fait beaucoup de festivals, il l'a montré. En plus, c'est un jeu sur lequel graphiquement il a travaillé très bien, donc les gens avaient voulu essayer. Oui. Donc, il a créé un post sur TrickTrack qui a été énormément lu et auquel beaucoup de gens ont participé. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui est connu, le prototype est connu. Quand on l'a signé l'année dernière, il était arrivé à un tas très avancé. Et puis, nous, on a essayé de le reprendre un peu dans tous les sens, de vraiment lui faire sortir tout ce qu'il avait dans le ventre. Et donc ça a pris pas mal de temps. On est revenu sur des choses, on a essayé de pas mal de trucs. Et Donc voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait rapidement.
D'accord. Mais le jeu, il n'a pas profondément changé.
Non.
Non.
D'accord.
Donc on pourra peut-être le découvrir dans des futurs festivals.
Oui, de façon un peu plus confidentielle parce que.
Il n'est pas terminé.
Il n'est pas terminé. Ouais. Donc on ne veut pas montrer quelque chose qui ne soit pas réglé comme il faut. Et
je suppose que là, vous communiquez. Enfin, là, on en parle comme Mad Steam, mais vous n'avez pas encore le vrai nom.
Ça, c'est non, ça ne s'est pas encore arrêté. On n'a pas encore l'illustrateur. On, ouais. pas, voilà, on en est encore. Au tout début de, enfin non, au tout début, mais si ça fait quand même déjà un an qu'on l'a signé, mais on n'a pas encore commencé vraiment le travail final sur le jeu.
De communication.
On a beaucoup de choses à faire et pas assez de temps malheureusement pour le faire. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ma Steam naîtra en 2016.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Bonjour à tous, nous sommes avec Benoît Forget de Purple Rain.
Bonjour.
Merci d'être là. L'actualité, c'est forcément l'Asdor et le côté dommage pour Purple Rain d'être nominé deux fois de suite. Et
ouais.
Donc ça veut dire quelque part que la gameplay, qu'elle est sélectionnée parmi les meilleurs jeux. Mmh. C'est pas encore la concrétisation, mais je suppose
pas très.
Que...
Oui, c'est pas le plus. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça fait deux ans que j'ai monté Purple Rain. Et ça fait deux ans que j'ai des jeux qui sont nominés à l'Asdor, donc honnêtement, c'est une belle reconnaissance. Quoi. Après, je calibre pas mes jeux en fonction de l'Asdor non plus. Je sais très bien que mes jeux ont ce qu'on appelle un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils sont un côté enfant ou un côté famille. Évidemment, pour ce genre de prix, c'est toujours un peu compliqué de les mettre dans une case. Quoi. Mais non, puis Lièvre à Tortue a gagné, c'est la semaine dernière ou cette semaine, un Golden Geek Award sur Board Game Geek, le site américain. Donc ça peut, vu que c'est un site de joueurs, mais ils sont vraiment beaucoup. Donc
c'est les plutôt, joueurs qui votent. Oui,
c'est les joueurs qui votent. Hein. Et je suis vraiment content pour le Lièvre à Tortue. Quoi, parce qu'il y a...
Il y a eu un bon suivi au niveau des ventes.
Ah bah oui. Mais de toute façon, on n'attend pas l'Asdor ou un prix quelconque pour que ça. Enfin, le Lièvre à Tortue a vraiment une marge de progression qui est plus rapide que les Trois Petits Cochons. Mais en même temps, c'est pas lui qui a ouvert la gamme. Donc, il est sorti fin août, le Lièvre à Tortue, et mi-novembre, on n'en avait plus en France. Il n'y en avait plus aux États-Unis non plus. Et donc, ça va très vite. Quoi. Donc, c'est assez logique en fait. Enfin, c'est tout. On dit ça après. Moi, j'ai trouvé ça logique qu'il soit dans la liste. Mais bon, c'est toujours très subjectif. Hein. Mais en même temps, cette liste, je trouve qu'elle est assez représentative de la tendance ces derniers temps. C'est-à-dire que là, honnêtement, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais dans cette liste, je trouve qu'il n'y a pas un jeu acheté. Ils sont tous bons, ils sont tous bien traités au niveau éditorial. C'était pas le cas, il y a encore quelques années en arrière, des choses, on peut se demander ce qu'elle faisait là. Là, il n'y en a pas un dont on peut dire que... On note pas de grands absents, en fait. Peut-être l'an dernier, c'est vrai que le Petit Prince, c'était étonnant qu'il n'ait pas été nominé l'an dernier. Mm-hmm. Mais cette année, je n'en vois pas tellement.
Ouais, les gens parlent un peu de Witness parce que c'était un peu
Oui, mais après, ça aurait pu. Mais bon, il n'y a pas tant d'absents que ça, je trouve, honnêtement.
Et du coup, il y a quand même une grosse actualité pour toi à Cannes.
Oui.
C'est la sortie du volume 4.
C'est ça. Et La Cigale et la Fourmi. Et donc, en fait, ça, elle est bien ce temps de sortie à Cannes, parce que grâce à la mise en lumière du Lièvre à Tortue, à l'animation de l'Asdor, ça permet d'enchaîner tout de suite, en fait, d'avoir le quatrième à disposition, et puis voilà. Quoi. Donc, c'est la sortie officielle aujourd'hui, que ce soit à Cannes ou en boutique, hein, il est disponible aujourd'hui.
Et donc, on a un peu échangé, toi et moi, par rapport à ça, mais donc, le Cigale et la Fourmi se positionne un peu comme le Lièvre à Tortue, en sachant que c'est un jeu un peu plus que pour le familial, enfin un bon familial avec un niveau.
Oui, ça reste familial quand même. Ouais.
Mais avec un niveau d'accessibilité. Alors, un peu plus simple pour les enfants.
Il faut savoir qu'au début, quand on a commencé à travailler avec Johan m'avait proposé. J'avais dit j'aimerais bien avoir plusieurs modes de jeu, donc on avait presque quatre. C'était assez la folie. Donc là, on a la partie de Johan, c'est un travail de commande, la Cigale et la Fourmi déjà. C'est moi qui lui ai demandé de faire. Enfin, s'il voulait faire un jeu de collecte dans lequel on puisse jouer les deux rôles. Et il m'a présenté ça. Et il s'est concentré. On avait développé il a développé surtout le mode Iver, le mode un peu plus joueur, mais qui reste familial quand même. C'est pas non plus. On n'est pas dans des trucs dans 3 ou je ne sais quel. Et moi, je me suis un peu plus concentré sur le mode automne, le mode le plus simple en fait, parce que je veux que ce mode-là soit une introduction en fait au mode un peu, c'est pour ça qu'il est allégé, c'est pour ça qu'il n'y a pas les fourmis rouges, c'est pour ça que c'est plus direct, c'est-à-dire on n'achète pas des cartes provisions, on bouge directement sur un plateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fait que je regarde les cartes rondes, les cartes chemin, et je regarde une autre carte pour savoir ce que je peux acheter. Là, on sait directement, je prends, j'avance mon... C'est tout simple, en fait. Quoi.
Il y a un niveau de lecture de main.
Ouais, ça permet en fait, d'avoir la colonne vertébrale du jeu et de la présenter. Et j'essaie d'avoir cette démarche, toujours cette démarche dans les jeux. Pour Lièvre et la Tortue, c'était un peu différent parce qu'on avait le jeu de base, qui est le mode normal du jeu, et on a fait un petit truc, un petit mode d'initiation. Alors, c'est pas le meilleur mode du monde, hein, mais ce qu'on voulait garder, c'était l'idée, je joue des cartes pour avancer mon animal, j'ai quand même un truc secret, sans qu'il y ait de pouvoirs spéciaux. Donc, pour que les plus petits puissent y jouer. Quoi. Donc, mais sur les jeux de la gamme, de toute façon, c'est un credo, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a plein de gens qui font ça, c'est d'avoir au minimum deux modes de jeu différents. Soit un mode d'introduction et un mode plus avancé, soit si on a un mode qui est déjà avancé, un mode d'initiation qui vient se greffer dessus. Quoi. Voilà.
Mais est-ce que à la base c'était un jeu à deux?
Alors non. C'est, en fait,
donc,
ouais.
Donc, mais est-ce que la sensation est vraiment une sensation de duel dans le cycle de la formule, oui, avec des rôles qui tournent?
Oui.
Est-ce que le jeu était conceptualisé au début à deux et après
non,
c'est ouvert, ou est-ce que
alors,
c'était différent?
Au début, il était de deux à quatre joueurs. C'est-à-dire que dans la cigale et la fourmi, bah, tu as la cigale et la fourmi. C'est-à-dire qu'à un moment, si le but c'était de faire un petit jeu asymétrique. C'est-à-dire que la fourmi ne joue pas de la même façon que la cigale. Et la cigale est là pour venir ennuyer la fourmi. Et je pense que le jeu le retranscrit plutôt pas mal.
Oui.
Effectivement, ça tombe parfaitement à deux. Parce que tu as les deux rôles. Quoi. Donc le but, effectivement, c'est ces rôles tournent de toute façon. Dans la première version du jeu, les fourmis rouges n'existaient pas. Donc c'est les autres joueurs. Alors les tours sont assez rapides hein, quand même. Hein, donc les autres joueurs regardaient, mais il y a plein de jeux. Quand on regarde les jeux en général, il y a un joueur qui joue son tour et les autres regardent. Là, il y a deux joueurs qui jouent dans le même tour. Donc en fait, c'est un faux problème. Quoi. Ça va même plus vite. Quoi. On n'attend pas son tour. Même si la fourmi ne récolte pas, elle reste fourmi, mais la cigale tourne toujours. Elle. Donc voilà. Et effectivement, il s'avérait que les fourmis rouges ont été rajoutées justement pour ajouter un petit truc en plus pour que les autres joueurs, tout le monde, ça devienne du simultané quasiment.
Participe, ouais.
Voilà, en fait. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la version de base parce que déjà, ça faisait un truc en plus à assimiler. Voilà. Et qu'en fait, quand on y regarde de près, bah, il n'y a pas tant besoin que ça. En fait, c'est pas. Il y a deux joueurs qui jouent pendant un tour au lieu d'un seul habituellement. Alors c'est vrai qu'il y a le point de vue, on peut penser que c'est un jeu à deux et que les autres sont spectateurs de ça, mais finalement ça va tellement vite et puis bon, il y a les fourmis rouges qui sont là pour compenser ça. Après, rien n'interdit
d'adapter les fourmis rouges,
de prendre les fourmis rouges et de les mettre dans la version de base. C'est totalement,
une charte, parce que
ouais,
là,
voilà,
ça sera peut-être
oui,
un peu
oui,
fort,
oui,
mais
oui,
un
oui, exactement. Donc c'est tout à fait envisageable. Enfin voilà quoi. Donc,
c'est ce que j'ai un peu voulu dire dans
oui, l'article. Oui, oui, oui. Mais effectivement, il y a cette sensation de jeu à deux, c'est sûr. Mais en même temps, le thème, dans le Lièvre à tortue, on a ramené des animaux des autres fables. Parce que pour faire une course à deux, c'est quand même un peu limite. Hein, d'accord. Tandis que là, comme ça tourne, c'est pas tant un problème que ça. Quoi.
Ah, moi, les fourmis rouges, j'aime bien. Hein.
C'est le petit truc en
plus. C'est le petit truc en plus, et puis c'est un peu opportuniste.
Ah bah c'est totalement opportuniste. C'est totalement opportuniste. Mais
elle est là, elle est sur le chemin.
Ouais, c'est
elle,
ça. Ouais. Non mais c'est clair. C'est en fait, moi
elle
je voulais.
Se trouve en plein milieu du combat.
Je vais proposer ça à Johan parce que je voulais un truc qui permette aux joueurs qui attendent leur tour de jouer en même temps, mais je voulais pas que ça ait un impact trop fort sur le jeu entre la cigale et la fourmi.
D'accord.
Et là. En fait, si la fourmi récolte et que les fourmis rouges ont choisi le bon, et ben ils prennent dans la pioche directement.
Oui.
Il n'y a aucun impact sur le jeu. Par contre, dans la réserve, effectivement, il y a un gain. Mais ça veut dire que la déduction, ils l'ont faite aussi. Quoi. Mmh. Donc voilà.
Et donc du coup, là, c'est le volume 4 de la gamme.
Oui.
Donc, ça commence à faire des jolis présentoirs,
oui.
Ça fait une jolie bibliothèque.
Ouais.
Mais j'ai entendu dire que tu avais déjà encore beaucoup de projets pour la suite en cette gamme.
Ouais.
Et que tu prendrais maintenant plus que des coups de cœur parce que tu as.
Bah, c'est surtout que j'ai demandé, comme le travail de commande, c'était plutôt cool avec Johan, j'ai lancé d'autres auteurs pour faire la même chose.
D'accord.
Donc on verra ce que ça donne. Je ne mets pas de limite de temps. Si à un moment ils y pensent, tant mieux. Si, mais de toute façon, là, il y a le petit chapeau en rouge qui va sortir fin août, qui est un jeu d'Annick Lebet, illustré par Jérémy Fleury. Ensuite, l'année prochaine, normalement, il y aura le joueur pour Cannes. Alors, après, les programmes, il peut y avoir des petits chamboulements. Normalement, pour Cannes 2016, ça sera le joueur de flûte, Damelin. Voilà. Et fin août 2016, si tout va bien, ça sera Jack et Alarico Magique.
Mais il y a une question de licence là-dedans, pas du tout?
Non, bah non, c'est du domaine public.
Non, c'est du... D'accord.
Ouais, c'est totalement du domaine public.
Et les comptes, comment tu les as choisis? C'est parce que les auteurs sont venus te les proposer ou c'est toi, tu as des comptes que tu avais envie de voir?
Il y a des comptes que j'ai envie de développer et c'est pour ça que je fais du travail de commande. Là, s'il y a la fourmi, c'est typiquement ça. En fait, moi, ce que j'essaie, ma démarche, c'est il y a un compte ou une fable qui me plaît, j'essaie de voir ce qui pourrait être, d'en extraire ce qui pourrait être le plus ludique. Par exemple, sur Jack et l'Arico Magique, j'ai plein de propositions. Et il y en a qui traitaient qui parlaient de la phase de marché. Dans Jack, il y a une phase de, il va au marché à un moment. Et non, il s'appuyait que. Voilà. Et moi, je voyais, et pour moi, ça devait être un jeu d'empilement de dés pour former le haricot pour de vrai. Et Frédéric Morard m'a présenté un jeu d'empilement de dés sur Jack et l'Arico Magique.
Auteur de la du Grand Poupe.
Oui, c'est ça. Et de Tralala, je crois, il a fait aussi.
Exact.
Ouais, c'est ça. Et même si je savais qu'il y avait du travail encore à faire, je l'ai signé parce qu'il correspondait exactement à l'idée que j'avais de ça. Et il y a des... Par exemple, Le joueur de flûte d'Amelin, c'est un jeu que j'ai depuis presque le début de Purple Brain, non, un petit peu après, mais pas très loin. Ça s'appelait Saute-Mouton. Et ce jeu, il avait la capacité de rentrer dans la gamme, mais j'arrivais pas à mettre un compte dessus. Et j'ai cherché, il y a des comptes avec les moutons, mais par rapport à la mécanique de jeu, ça collait pas, quoi. Et bah, c'était quoi, il y a un mois, enfin, je me suis dit, mais tiens, le joueur de flûte, et en fait, c'était presque une évidence, quoi. Mais comme quoi, faut que ça macère un peu, et il sera juste, enfin, il sera parfait dans cette gamme avec. Puis c'est un compte qui reste assez connu, surtout, et puis aux États-Unis, il est quand même. C'est aussi il faut aussi trouver des choses qui sont assez connues aussi aux États-Unis, parce que le jeu sort en même temps là-bas aussi. Donc voilà.
Et du coup, là, tu restes vraiment sur une programmation de jeux par an,
oui,
enfin, de jeux
voilà,
par an.
Ouais. De jeux, ça.
Ça te laisse le temps suffisant de les travailler,
voilà.
Et de pouvoir.
Ah, oui. Parce que le petit chapeau en rouge, je l'ai récupéré il y a 2 ans. Non, alors attends. Oui, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans environ. Voilà. Donc ça permet. Moi, ce que je dis aux auteurs qui veulent travailler avec moi, c'est qu'on prend le temps. Moi, j'ai pas envie de sortir un jeu dans l'urgence. Effectivement, il y a des temps dans l'année où il vaut mieux sortir des jeux. Mais il n'y a pas, au fil des années, il n'y a pas de temps. Surtout une gamme sur les comptes. Le compte, ça reste intemporel. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'effet de mode. Ouais. Il n'y a pas d'effet de mode.
À part la tienne que tu as créée avec cette gamme.
Oui, mais c'est en fait. Moi, mon idée, c'est d'avoir réuni tout dans la même boîte qui est en forme de livre. Les jeux sur les comptes, ça existait avant. Même les boîtes en forme de livre, ça existait avant. Mais bon, bah, écoute, ouais, ça a l'air de plaire. Donc,
Là, par rapport à la suite, comment tu comptes travailler? Parce que là, on voit qu'à chaque fois, il y avait un duo d'auteurs et,
oui.
et d'illustrateurs qui changent à chaque tome. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas rechercher ou c'est quelque chose qui...
Ça dépend. Ça dépend parce que c'est surtout déjà des gens avec qui j'ai envie de travailler, avec qui ça s'est bien passé. Mathieu Lessène, il a fait 2 jeux à la suite, La Lièvre à Tortue et Mange-moi si tu peux.
Ils ne sont pas totalement dans le même format. Mais
ils sont bon, ça reste, c'est dans l'idée des comptes, hein, toujours. Et donc, je retravaillerai sûrement avec Mathieu, parce qu'on s'apprécie, et puis même avec Xavier, Nayad, on a bossé sur Shinobi, il a bossé sur La Cigale et la Fourmi, et puis je sais qu'il y a des illustrateurs qui aimeraient bien bosser dans cette gamme, qui me l'ont dit, puis c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à eux pour faire un set de cartes spéciales pour Le Lièvre à la Tortue, où il y a 5 illustrateurs différents, et c'est des gens avec qui j'aurais certainement plaisir à retravailler, sans doute, mais je me pose pas c'est une question de plaisir de travail, quoi.
D'accord.
Donc, je ne me pose pas de.
Là, tu as fait la notion de Shinobi ou du Mange-moi si tu veux. Est-ce que du coup, il y a d'autres jeux satellites que tu vas sortir au-delà de la compte?
Alors,
de la gamme compte des jeux ou...
Je réfléchis à d'autres gammes, mais qui se rapprocheraient plus de ce que je fais déjà, c'est-à-dire avec des boîtes en forme de livres, mais différentes, de tailles différentes, sur des jeux différents. Après, Shinobi, il finit de se vendre. Donc il sera totalement vendu en à peu près 1 an, donc il sera plutôt bien. Mais je vais pas faire de retirage parce que ça va être un jeu qui va se vendre tranquillement, mais pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de jeux maintenant qu'à un moment, il faut savoir dépenser ça en énergie. Où on voit que ça, et c'est sur la gamme comptes et jeux, où ça marche le mieux quoi, en définitive. Donc pour l'instant, je mets toute mon énergie sur la gamme comptes et jeux, puis on verra plus tard. Quoi.
Et donc là, toi, tu fais tout seul, ton travail d'édition,
oui.
de communication et tout ça.
Oui.
Et là, au final, même le projet, c'est quelque chose qui te plaît et que
tu penses
te voir un peu te développer avec le secteur qui
Peut-être, on verra. Hein. Là, c'est trop tôt. Moi, ça fait que 2 ans. Mm-hmm. Euh, donc c'est un peu tôt. Bon, ça a l'air de prendre, mais c'est faut quand même attendre encore quelques années, voir si ça continue. Quoi. Parce que c'est faut pas que ça soit un feu de paille. Quoi. Bon, j'étais content parce que les trois petits cochons, au bout d'un an, à Noël dernier, s'est vendu autant que l'année d'avant. Quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Quoi. Ça veut dire qu'il y a une pérennité sur le jeu. Quoi. Mais peut-être que j'embaucherai un moment, oui, peut-être. Oui, c'est possible. C'est mieux. Enfin, je me rends compte. Alors, on travaille jamais totalement tout seul, parce que c'est des échanges avec les illustrateurs, avec l'auteur, puis même avec Yellow, mon distributeur, etc. Mais c'est vrai que physiquement, d'avoir un ping-pong avec des personnes, c'est. Je m'aperçois que ça serait mieux. Et je m'aperçois que ce qui est bien, c'est aussi pour. Quand il y a un peu des coups de pression, etc., de ne pas tout prendre de plein fouet, parce que quand tu es tout seul, tu prends tout. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est bien aussi pour ça. Aussi, ça serait bien aussi pour ça. Mais bon, j'en suis pas là. Mais oui, c'est quelque chose auquel je pense. Ouais. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr.
Bah, merci beaucoup, Benoît.
Merci à vous.
Si t'as quelque chose à rajouter.
Non, merci à vous.
Bah, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
C'est parti.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'un Space Cowboys.
Et oui.
François Doucet ?
C'est ça, bonjour.
Bonjour, bonjour. Donc rapidement, Splendor était encore nominé pour. Enfin, encore nominé.
Il n'a pas encore mal nominé.
Au Spiel et à l'Asdor, donc c'est vraiment un gros succès du jeu. Après, tu me disais que la non-concrétisation de l'Asdor, c'était pas.
C'est pas très grave. Les prix, c'est toujours intéressant parce que c'est la profession qui. Qui dit bon ben voilà votre jeu il est super, ça a très bien marché, il est chouette, voilà c'est bien, ou il est beau, je sais pas, enfin bref. Donc Splendor c'est oui il a été runner-up comme disent les anglo-saxons de plusieurs prix, mais il en a gagné quelques-uns. On a gagné en Finlande par exemple, on a gagné en Angleterre aussi. Donc c'est bien aussi. Et puis ben, l'Asdor c'est sympa d'avoir été nominé parce que mine de rien le jeu il a un an, puisqu'il est sorti au Festival de Cannes de l'année dernière. Donc être nominé après un an plein, ça veut dire que le jeu est resté sur le radar des gens, des joueurs, de la profession, tout ça. Donc c'est plutôt satisfaisant et à la limite, on est bien content comme ça. Puis on a été un petit peu consolé avec un autre prix qu'on a eu en même temps en fait. Et celui-là, on l'a gagné par exemple, qui est celui du Geek d'or, le Golden Geek qui nous a été donné sur Board Game Geek. Donc on a eu le prix du Family Game et le prix général du Board Game of the Year. Comme ils disent, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est un vote du public en plus. Mmh. Voilà.
Donc ouais, Splendor, succès mondial en Allemagne, en France ou aux États-Unis.
Oui, mondial à des degrés divers en fait. Selon les différents pays, il y a vraiment une vision différente du jeu et un succès différent du jeu. La vraie citadelle de Splendor, toute proportion gardée, c'est les États-Unis. C'est là où il a le mieux marché, dès le début, tout le long, et il continue. C'est proportionnellement à la population, etc. C'est l'endroit où Splendor marche le mieux. Mais il marche. Il marche très bien ailleurs, hein, on est très content.
Et même s'il y a un petit peu moins de recul par rapport à votre deuxième jeu, Blackfeet, est-ce que vous avez déjà à peu près la sensation qu'il a été accueilli comme il se doit ?
Blackfeet est très bien accueilli, en tout cas par les critiques, ça c'est sûr. Au niveau public, il se vend moins que Splendor, c'est pas un secret, c'est pas le même format. On est en tout cas content du résultat, on est content que les gens aiment. Visiblement, il est beaucoup joué, beaucoup apprécié. J'ai eu sur le salon des gens qui m'ont dit régulièrement « Blackfeet, c'est super ». Donc bon, après, c'est les salons, tout le monde trouve tout super, mais on est plutôt content de Blackfeet. Il a moins bien marché que Splendor, c'est pas un secret. Après, Splendor, c'est aussi un accident heureux. Ce qu'il y a de bien, c'est que Blackfeet n'est pas du tout un accident malheureux. C'est un jeu qui s'est très bien implanté, qui a bien marché, qui continue d'être présent dans les boutiques. Donc on est content.
Et là, le troisième, Elysium, qui s'annonce où ils ont. C'est vraiment le jeu, on peut dire, on vous attendait parce qu'on avait dit les Space Cowboys, ça va être du gros joueur, ça va être tout ça. Et ben voilà, vous avez eu Splendor d'abord, vous avez eu Blackfeet, c'est ça, pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées sur les jeux qui sont arrivés les uns après les autres, il y a eu le temps de développement. Mais Elysium est enfin là, gros joueur, et ça a l'air de. Enfin, les premières sensations, les premiers retours, dont les miens, ça a été grosse, grosse satisfaction.
Oui, il y a eu quelques articles sympas, n'est-ce pas ? Non, on est vraiment contents. Il y a un petit décalage de lancement parce qu'en fait, Blackfeet, par exemple, est sorti avant aux États-Unis et ensuite en France, par exemple. Là, Elysium, il sort vraiment initialement, on est privilégié en France. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations sur ce qui se passe aux États-Unis, où il sera disponible mi-avril. Donc sur la, oui, il y a un vrai décalage là. Sur la France, l'accueil est visiblement, en tout cas les boutiques ont vraiment adhéré, ça c'est sûr, puisqu'il a été très bien implanté, comme on dit maintenant. Les boutiques y ont vraiment cru visiblement. Donc les premiers retours sont bons. Là sur le salon, les gens qui y jouent sont plutôt enthousiastes. Après, oui, il est souvent, on a entendu des gens dire, c'est le premier jeu qui ressemble à finalement ce qu'était la promesse des Space Cowboys.
Parce que les gens ont cru.
Voilà, en fait, je pense que c'est plutôt ça, parce que, les Space Cowboys, c'est Sébastien, c'est Croc, Cyril, c'est aussi les éditeurs de Claustrophobia, Kellus, mais c'est aussi Jamaica, c'est aussi Witness chez Istari. Donc justement, je pense que la particularité des cinq personnes qui ont fait Space Cowboys, qui ont fondé Space Cowboys au départ, c'est justement capable de faire des jeux pour gamers, allez, on va dire ça comme ça, core player, effectivement, comme les Elysium. C'est vrai que c'est plutôt un jeu qui va plutôt aller chercher des joueurs un petit peu habitués. Mais ils savent faire aussi des jeux beaucoup plus familiers, beaucoup plus simples. Ils savent les déceler et les développer. Donc ça avait été peut-être un petit peu oublié. Il n'y a jamais eu de promesse, en fait, comme quoi ce serait des jeux velus, poilus, tout ce qu'on veut, pour joueurs exclusivement habitués. Il y en a pour tous les goûts. La seule ligne éditoriale, c'est il faut que ça plaise et il faut qu'on ait envie d'y rejouer.
Ouais,
ça,
jouer.
C'est le plus important. De jouer et d'y rejouer. Voilà.
Bah, Elysium, ça marche. On est déjà à 3 parties.
Enfin, moins 3.
Toi, t'en es...
J'espère que vous avez changé les 7.
Ah oui, on a testé testé les différents dieux, combiné les différents dieux, et c'est vrai que changer un dieu d'un deck à l'autre, et c'est vrai que ça donne des parties, des configurations différentes, et voilà, une grosse rejouabilité, c'est juste très agréable.
Et c'est hyper équilibré. Hein. Enfin, je ne sais pas combien de temps vous avez mis à le développer celui-ci, mais... Les scores, c'est à chaque fois 2-3 points d'écart. Hein.
Ah, ça dépend des gens, je pense, plus que du jeu, mais il y a des écarts des fois quand même. Mais non, il n'y a pas eu d'espèce d'équilibrage à ce niveau-là en fait. Elysium a été finalement relativement fluide et facile à développer, dans le sens où les auteurs qui ont présenté le jeu à Croc, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, le jeu, il a pris un an et demi à développer.
C'est ça, c'est 2012, ils m'ont dit à l'interview.
Ouais, mais c'est pas vieux de nos jours. Non, en 2013. Donc ça a été très naturel, c'est-à-dire qu'on l'a testé, on a fait, ah oui, quand même, c'est bien. Après, il y a eu plusieurs phases de rethématisation, de simplification aussi, parce qu'il y avait
des dés
en fait, et des symboles en plus, qui finalement sont revenus pour les daltoniens, mais en fait, ils servent à rien, entre guillemets, dans le jeu, puisqu'ils renforcent les couleurs. Et en fait, on a simplifié, on pourrait dire, le jeu, on l'a un peu fluidifié. Oui, mais par contre, tous les pouvoirs, tous les équilibrages, justement, de points, puisque la question d'origine, c'était pourquoi le jeu est si équilibré, ça, c'est vraiment les auteurs qui ont vraiment eu l'intuition du truc. La vraie surprise, c'est qu'effectivement, quand on change les configurations, et il y en a 57 différentes, donc le temps que les gens arrivent à se dire « Oh, Elysium, je maîtrise », il y a peut-être un peu un long moment. Et en fait, à chaque fois qu'on testait, on s'apercevait qu'il y avait plusieurs façons de gagner au sein même d'un même deck.
Vu que toutes les cartes ne sont pas utilisées d'une partie à l'autre, même avec un même set, les deux parties sont complètement différentes.
Exactement, et donc du coup, on avait des parties parfois avec des gros écarts, mais parce qu'il y avait des gros points. Vous avez des sets qui vont se jouer à 130 points, des sets qui vont se jouer à 50 points, et donc forcément ça resserre ou ça étend d'autant les écarts. Mais le jeu résistait très bien à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, avec juste une toute petite modification de règle pour jouer à deux, c'est juste le changement de quête. Et donc du coup, on s'est dit, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé une espèce d'algorithme, je ne sais pas, d'équilibre qui sous-tend toutes les familles, parce que malgré tout, il y a beaucoup de variétés de pouvoirs, il y a des règles. Si on s'amuse à décortiquer un petit peu le jeu, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui reviennent, des équilibres qui se créent. Et donc il y a eu un petit peu de dosage quand même sur la fin, parce qu'on avait l'impression que certaines cartes étaient peut-être un petit peu trop puissantes. Donc il y a eu ce qu'on appelle des nerfs, comme dans les jeux à collectionner, de quasi dernière minute, ou presque, donc quelques petites modifications avec les auteurs, avec les tests. C'est tout l'intérêt de faire essayer le jeu jusqu'au bout, en fait. Et il y a eu quelques petites modifications sur certaines familles, mais bien sûr, il faudra me torturer pour que je dise lesquelles. Donc, vous n'avez pas les instruments.
C'est vrai. Et surtout Elysium, c'est surtout 9 ou 10 illustrateurs différents.
8. Il y a 8 dieux et c'est 8 illustrateurs.
Il n'y a pas une famille qui a été faite par 2 illustrateurs.
Non, c'est le coloriste. Ah d'accord. C'est le deuxième nom, c'est le coloriste.
Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que chaque famille a une vraie singularité où on retrouve la patte de l'illustrateur. Mais il y a aussi une forme de cohérence entre les familles où il y a une même atmosphère, même si ça permet de les différencier et de ressentir une ambiance générale. Et ça, est-ce que ça a nécessité une direction artistique particulière ou ça a été au final assez fluide avec chaque illustrateur?
Alors, en fait, ce qui est intéressant sur l'aspect des illustrations, c'est qu'une fois qu'on a décidé que le thème, ce serait la mythologie grecque, avec tout ce que ça pouvait impliquer, on s'est aperçu que les identités des différentes familles, donc qui devenaient les familles des dieux, devenaient tellement importantes que c'était impossible de limiter le nombre d'illustrations. À l'origine, ce qui était prévu, c'est qu'en gros, il y ait une illustration par niveau, par famille, ce qui faisait un total de 24 illustrations. Et puis, avec la thématique qui impliquait de la variété, on s'est dit, ah oui, mais non, il va falloir tant d'illustrations. Donc, on a fait le calcul et on est arrivé à 108. Et là, on s'est dit, si on demande à un illustrateur de nous faire 108 illustrations dans 3 mois, ça va pas aller. Donc là, la question, c'était comment on fait. Et comme on s'est aperçu que finalement, les 8 familles étaient très différentes aussi, aussi bien dans leur pouvoir, en fait, que dans la logique qu'on avait appliquée transversalement. C'est-à-dire que si on regarde le jeu, on s'aperçoit que il y a des logiques au sein d'une famille, mais il y a par exemple des cartes communes à toutes les familles. Et donc, que finalement, on pouvait interpréter chaque carte dans chaque famille à sa façon. Et donc, c'était intéressant d'avoir un œil différent. Et Philippe, donc le roi de l'art chez nous, s'est dit, bah, pourquoi pas tenter le coup et de se dire, bah, 8 familles, 8 dieux, 8 illustrateurs. Donc là, il a contacté, hein, 8 illustrateurs, et qui étaient libres pour faire 13 illustrations chacun. Donc là, déjà, ça devenait nettement plus sympa. Et puis, il s'est passé des choses très rigolotes. C'est que pour pouvoir coordonner tout ça, et ce n'était pas une volonté au départ, il a fait une espèce de gazette, en fait, ou par mail, hein, tout simplement, ou par facilité, en fait, tous les illustrateurs faisaient partie du même groupe de messagerie. Ce qui fait qu'en fait, quand ils envoyaient leur off, leur premier dessin, ou leur première tentative de colorisation, etc., tous les autres illustrateurs le voyaient. Et donc du coup, il s'est créé une espèce d'émulation assez amusante, du genre, ah, vous avez déjà fait 8 cartes, ah mince, il va falloir que je me bouge un peu là. Et cette émulation, c'est vachement bien, parce que souvent, dans les projets, des fois, les illustrateurs, il faut un petit peu les pousser.
Et après, certains, peut-être que les retours pour l'un pouvaient servir aussi pour les autres ou...
Très nettement, parce que il y a certaines cartes qui sont transversales, comme la carte assemblée, qui est commune à tout le monde, ou la carte initiation. Et donc là, c'était rigolo de voir déjà comment chacun interprétait la notion d'initiation ou la notion d'assemblée pour chacun. On avait fait un brief, mais on leur a quand même laissé une certaine liberté. Philippe aime bien laisser les illustrateurs s'égayer avec leur dessin. Et donc, du coup, bah, ils ont vu ce que faisaient les autres, ils se sont regardés, ils se sont un petit peu espionnés, c'était rigolo. Et en plus, je pense qu'ils ont vraiment apprécié. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disaient « Ah, c'est super ce qu'il a fait John. Ah, Carrie, bien, bien. » Donc, il y avait une vraie émulation, c'était sympa. Et du coup, cette partie-là du projet qui pouvait être un petit peu compliqué, dans certains cas c'est compliqué, est devenue beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et très plaisante, je pense, pour tous les illustrateurs.
Donc même si à la base les 8 illustrateurs n'étaient pas une idée ou une volonté, au final c'était une solution.
C'est une solution.
Au final, ça a été une expérience enrichissante pour le jeu.
Oui, au point que on se demande si c'est pas une bonne idée en fait, de façon générale. Mais voilà. En tout cas, c'est une idée à retenir parce que ça a vraiment bien marché. Ouais, c'est peut-être un groupe de personnes qui... ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, hein, mais certains se connaissaient un petit peu. C'était assez amusant. Donc, il y avait des gens pour qui c'était le premier jeu. D'autres qui sont des vieux briscards, comme Vincent Dutray, évidemment. Donc c'était très sympa.
Et vous avez également une autre nouveauté sur ici, Cannes, qui n'est pas à la vente, mais qui est en présentation, en c'est preview sur 3 stands, ouais. Monster Game, Cocktail Game, c'est chez vous.
Ouais.
Et c'est Crossing.
C'est Crossing qui sort en mai normalement, qui est à l'opposé du spectre par rapport à Elysium, donc on en est très content aussi d'ailleurs. Donc Crossing qui est un jeu beaucoup plus simple, donc beaucoup plus fluide, qui est à la limite du party game, on pourrait dire, mais c'est un party game avec un petit peu de... On appelle le guessing, mon dieu, que de terme anglais. Donc, où il s'agit d'obtenir le plus possible de gemmes en pointant du doigt des champignons. Donc, dit comme ça paraît un petit peu délirant, et c'est assez délirant. Donc, ça fait du bruit, c'est ça qui est amusant pendant qu'on fait les démonstrations. Donc, on l'a mis à côté de Blackfeet, ça va, ils font du bruit aussi. Donc oui, on pointe du doigt et on essaie de ne pas pointer du doigt les mêmes champignons que les autres joueurs. C'est extrêmement simple, je pense que c'est à expliquer, c'est encore plus rapide que Splendor, ce qui est quand même difficile. En termes de complexité, je pense qu'en dessous, il y a le Shifumi, mais c'est à peu près tout. Et puis, quand on joue et qu'on joue plusieurs fois, outre le fait qu'on s'amuse, ça s'aperçoit qu'en fait, il y a quand même dans la rythmique, savoir quand est-ce qu'il faut protéger ses gemmes, est-ce qu'il faut protéger ses gemmes, quand est-ce qu'il faut les banquer. C'est de l'opportunisme pur, c'est du guessing, mais c'est très amusant. Et puis, on voit des champignons se gonfler au fur et à mesure parce que tout le monde les veut. Donc, quand on est plusieurs à convoiter la même chose, personne ne le prend. Donc on se retrouve avec des espèces de tas de gemmes complètement improbables. Donc c'est vraiment un jeu très très amusant, qui est très utile pour, si on a 10 minutes et qu'on est 6, c'est pas si facile de trouver un jeu, bah là, Crossing, c'est sans problème.
Et puis là encore, une volonté éditoriale forte, avec une boîte métal, avec des gemmes de qualité, une illustration qui est très jolie, faite par Catel Rose.
Qui plaît beaucoup, elle nous plaît bien aussi, mais elle est très sympa, cette illustration.
Donc, tu m'as dit, c'est sorti en mai.
Sorti mai, donc chez trois éditeurs, parce qu'on est comme ça.
Et est-ce que, du coup, on peut parler de la suite d'Espèce Cowboys, jeu qu'on attend depuis longtemps?
Je ne vois absolument pas de quoi vous parler, mais peut-être Time Stories éventuellement.
Exactement.
Oui, Time Stories est prévu pour la fin de l'année. Normalement SN, si ça se passe bien, et puis ça devrait bien se passer. Donc c'est un gros boulot, ça a été un gros chantier pour plein de raisons. On pourrait énumérer le fait que c'est un objet ludique non identifié, on dit ça maintenant. Je pense que quand il a commencé, l'expression n'avait pas été encore inventée, c'est ça qui est bien, quand ça a commencé à travailler dessus. C'est un gros travail parce que c'est un jeu. On ne peut pas avoir d'expérience dessus puisqu'il n'a jamais été fait.
C'est vrai.
C'est au croisement de plein de choses. C'est au croisement du jeu de rôle, c'est au croisement du jeu de plateau, c'est au croisement du livre dont vous êtes le héros, c'est un jeu coopératif. Donc comme il est un peu tout, tout le monde a un peu un avis aussi, tout le monde a un peu son idée. Donc du coup, il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Il y a des idées qui fusent, il faut arriver à coordonner tout ça. C'est aussi un énorme boulot d'illustration.
Oui.
Puisque le principe de Time Story, c'est qu'on découvre des scènes dans lesquelles on va pouvoir évoluer, et donc ces scènes sont présentées par des cartes, et il faut que sur les cartes les choses soient au bon endroit. Et donc la liberté qu'on accorde aux illustrateurs, qu'on a accordée sur Elysium par exemple, dans un espace donné, sur une carte, mais là ils l'ont même pas, parce que si une pierre elle doit être à un endroit, il faut qu'elle soit là. Quand on dit à un dessinateur, ton triptyque il est superbe, mais alors par contre il va falloir inverser ces deux personnages, il n'est pas forcément très content, puis il faut qu'il recommence. Donc ça prend un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'équilibrage à faire, parce que c'est un jeu coopératif, et les jeux coopératifs nécessitent souvent pour qu'ils ne soient pas trop compliqués, mais pas trop simples non plus. Donc c'est une vraie expérience à développer, c'est vraiment une expérience à jouer, ça c'est chouette. Ce qui nous fait continuer et avancer, c'est que tous les gens qui y jouent, en général, en ressortent avec les yeux qui brillent, en se disant « mais vous êtes fous ». Donc il faut continuer dans la folie, quoi.
Et vous avez demandé à plusieurs joueurs de venir vous filer des coups de main pour tester des différentes configurations ou ce genre de choses. Et ces retours de joueurs vous étaient bénéfiques et vous avez réussi à trouver le parfait compromis pour...
Parfait compromis, on ne sait pas. La plupart du temps, on fait plus du consensus que du compromis, on va dire. Le but étant pas forcément de choisir une version plutôt qu'une autre ou qu'une autre, mais d'essayer de prendre ce qu'il y a de mieux dans les différentes versions et de profiter surtout des retours des gens. C'est pas forcément le coup de main. On essaie tous nos jeux. On les fait jouer à toutes sortes de personnes. Une anecdote qui est assez amusante, c'est que sur Elysium, la dernière modification qu'on a faite dans les règles, elle a été faite parce qu'on a fait un round de test où en fait on n'a pas fait jouer les gens. On a pris des gens qui n'avaient pas encore joué Elysium, on leur a donné les règles sans le matériel et on leur a dit voilà, débrouille-toi. Et dans les retours, il est revenu comme une évidence quelque chose qui manquait dans la règle et qu'on a pu ajouter au dernier moment, qui je pense est assez utile. On arrivait à jouer sans, mais ça a vraiment aidé. Et c'est exactement la même logique que pour Time Stories. Il faut vraiment essayer les jeux, ça c'est une évidence, mais c'est une évidence qui n'est pas toujours évidente à transcrire dans les faits, en fait. Faire essayer les jeux, il y a les salons, tout ça, mais c'est pas si évident, les gens sont volontaires. Mais après, il faut qu'ils vous donnent leur avis, il faut trier ces avis, tout ça. Bon, donc c'est pas toujours évident à faire. Nous, maintenant, c'est ce qu'on essaye de promouvoir, d'instituer chez nous. On va faire ça de façon plus régulière aussi, c'est-à-dire inviter des gens pour jouer avec nous. Pas forcément d'ailleurs qu'à des jeux qu'on va éditer, mais aussi aux jeux du passé, entre guillemets, hein, parce qu'on aime bien rester sur les jeux qu'on édite pour pas qu'ils vieillissent dans les ludothèques ou ailleurs. Donc on veut que les jeux soient joués, soient sortis. Donc on va promouvoir ça. Time Stories, c'était un petit peu l'occasion, puisqu'on avait des gens qui venaient, on s'est dit, tiens, bon, on va leur faire essayer. Et c'est quelque chose qu'on veut promouvoir de façon générale et pas que pour Time Stories, quoi. En ce qui concerne Time Stories, en tout cas, on continue d'avancer. Pour l'instant, on est toujours dans les délais, on verra. Les délais dans les jeux, on sait que de toute façon, c'est toujours appelé à évoluer, mais bon, on est raisonnablement optimiste, on va dire. En tout cas, on bosse.
Alors, on espère le trouver à SN, parce que pour l'avoir essayé, on l'attend. Du coup, il y a d'autres projets en cours, ouais. En cours de Time Stories que tu pourrais nous parler ou pas?
Oui, bien sûr. Bah, on a Route 666, qui n'est pas forcément le titre définitif, mais là quand même, je pense que ça devrait aller. Qui, comme son nom l'indique, se déroule aux États-Unis. Et c'est un road trip, en fait. C'est un jeu d'aventure, on va dire, entre guillemets, où on fait un parcours sur la fameuse Route 66. Mais le troisième chiffre pourrait indiquer un petit peu que ça ne va pas forcément être de tout repos. Donc il se passe des choses sur cette route, donc il va falloir survivre à un certain nombre de dangers. C'est pas du tout un jeu coopératif, c'est plutôt un jeu de survie où le dernier survivant gagne ou celui qui arrive au but. Et s'ils sont plusieurs, là on compte les points de victoire pour savoir qui gagne. Mais c'est avant tout un jeu de survie. Tout le réglage est dans essayer d'arriver à ce qu'il y ait au moins une personne qui meurt par partie, parce que sinon c'est pas drôle.
Et il y a une photo de Nuremberg qui a un peu fuité sur les réseaux, et on a pu voir, enfin j'ai pu apercevoir pas mal de dés, ou ce genre de choses, donc ça c'est, il va y avoir pas mal de...
C'est assez différent de ce qu'on a fait, il y a beaucoup de jeux de dés. Alors c'est un jeu de Martin Wallace, donc voilà, qui prend un petit peu le contre-pied des productions habituelles de Martin Wallace, et donc nous ça nous permet de prendre le contre-pied des productions habituelles de Space Cowboy, parce qu'on n'avait jamais pu mettre de dés dans nos jeux. Donc c'était quand même un petit peu frustrant.
Au contraire, on les enlève.
Donc on les enlève plutôt.
Et
exactement, pour Elysium, c'était quand même le con. On s'est dit, mince, on a enfin trouvé un jeu avec des dés et on les enlève. Super. On a mis des colonnes à la place. Bon, ceci dit, c'est agréable à manipuler. Là, il y a des dés et puis là, on ne pourra pas les enlever. Ça, je le dis là maintenant. Si vraiment. Non, ça ne peut pas. Il y a beaucoup de dés. C'est plus un jeu quand même un petit peu de gestion. Où il faut arriver à gérer ses ressources le plus possible, le plus longtemps possible, pour essayer de tenir et arriver au bout de la route. Mais il y a effectivement pas mal de jets de dés, il y a des combats. Enfin, c'est un Martin Wallace très particulier et ce sera un Space Cowboys très particulier.
Et là, vous avez une vision sur sa sortie en termes de développement qui reste encore?
Logiquement, c'est SN aussi.
SN aussi, donc il y aura peut-être deux grosses sorties pour SN.
Tout à fait.
Et est-ce que tu as autre chose à nous dire peut-être par rapport à l'environnement Space Cowboys? Est-ce que on a entendu parler de NAP pour Splendor ou ce genre de choses?
Ah, oula, ça, d'accord, ok. C'est environnement Space Cowboys, je dis tiens, on n'a pas annoncé de déménagement pendant. il y a des choses. Bah, il y a un des chantiers, entre guillemets, c'est de continuer de développer la Ligue Splendor. Donc la Ligue Splendor, elle existe en fait déjà depuis un an. Il y a eu une trentaine de tournois de jouer, il y a plus de 300 joueurs dans la base de données. Ça nous a permis de continuer à faire vivre le jeu, bien sûr. Bon, il n'y avait pas vraiment besoin de ça, mais c'est toujours bien qu'il y ait un petit peu de jeu compétitif. Et Splendor s'y prête vraiment beaucoup. Donc là, par exemple, à Cannes, on fait un tournoi que nous, on organise. C'est le premier qu'on va organiser, en fait, de 48 personnes. Et donc, on va continuer l'année prochaine à beaucoup faire de tournois. Et donc, pour ça, il faut un kit tournoi, parce que c'est plus sympa. Donc, avec un playmat, avec des lots, avec des nobles en plus, etc. Donc, il va y avoir pas mal de goodies sur Splendor qui vont pouvoir être acquises par les joueurs au sein des tournois. Et puis après, elles pourront être acquises autrement, parce que tout le monde n'est pas forcément un fan de tournoi, ce qu'on comprend très bien, bien sûr. Et d'abord, on va accorder la primauté aux gens qui jouent à Splendor en tournoi, et puis après, on verra pour la suite. Donc il va y avoir pas mal de petites choses.
Et donc les petites illustrations qu'on a pu voir sur Facebook ou Twitter, c'est par rapport justement à tout ce que tu viens de dire?
C'est ça, c'est des nobles pour Splendor, en fait.
D'accord.
Donc ils vont être révélés les 4 dimanche pour le tournoi.
Pour moi, on a fait le tour.
Je pense aussi.
Bah, merci beaucoup.
Mais de rien, c'était un plaisir.
À
bientôt.
Au revoir.
Et voilà, c'est déjà terminé. Le troisième épisode est en cours de préparation, mais il ne sortira pas demain. Je suis désolée, car mercredi soir, c'est soirée jeu. Avec Micha et Merlin Duménil, d'ailleurs. Donc, je vous dis à très bientôt.